Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Monceau, proposée par Michel Lafon. Et oui, Pierre Barry ne nous rejoindra probablement que la semaine prochaine. Cette semaine, à l'affiche 8 films, Nightmare Alley, Tendre et saignant, L'amour c'est mieux que la vie, Michael Cimino, Un mirage américain, La place d'un autre, The Chef, Le Lynx, et Hors du monde. Pour la programmation musicale, eh bien, on va commencer par le titre qu'on entend sur le générique de fin de Nightmare Alley, ça s'appelle Stardust, et c'est Augie Carmichael qui vous propose ça sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Stardust, c'est pas Stardust que je vais vous proposer, c'est Jackson Brown, Love Needs a Heart, et ça c'est un titre que l'on entend en fait dans le film Tendre et saignant. Oui, voilà, je me suis emmêlé les pinceaux. Voilà, allez hop, c'est parti. Love Needs a Heart, Jackson Brown. Ça a un petit peu de mal à démarrer au démarrage, oui, évidemment. Et c'était dans Tendre et saignant, cette chanson dans un style country western. Nightmare Alley, c'est notre premier film cette semaine. Nightmare Alley, c'est un film de 2h31 de Guillermo del Toro, proposé par le méga CGR et le Pâté Quinconce. Au Pâté Quinconce, une séance en VO au moins par jour. Guillermo del Toro, qui est-il? C'est un réalisateur, scénariste, producteur mexicain. Né en 64, 93, il réalise Chronos avec Ron Perlman, qui est un de ses habitués, un acteur fétiche, on pourrait dire. 97, Mimic, avec Mira ou Myra Sorvino. 2001, L'Échine du Diable. 2002, Blade 2, avec Wesley Snipes. 2004, Hellboy, avec donc Ron Perlman et John Hurt. 2006, Le Labyrinthe de Pan, avec Sergi Lopez. 2008, Hellboy 2, Les Légions d'Or Maudites. 2013, Pacific Rim. 2015, Crimson Peak, avec Mia Wasikowska et Jessica Chastain. Et 2018, La Forme de l'eau, Sally Hawkins, Michael Shannon, et c'est un film qui avait été oscarisé, La Forme de l'eau. Voilà donc Nightmare Alley, alors qu'il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlyle débarque dans une foire itinérante et parvient à s'attirer les bonnes grâces d'une voyante, Zina, et de son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme. S'initiant auprès d'eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d'utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l'élite de la bonne société new-yorkaise des années 40. Avec la vertueuse et fidèle Molly à ses côtés, Stanton se met à échafauder un plan pour escroquer un homme aussi puissant que dangereux. Il va recevoir l'aide d'une mystérieuse psychiatre qui pourrait bien se révéler la plus redoutable de ses adversaires. Alors, Thierry Chaise dans West France, un film noir prenant de bout en bout grâce à la mise en scène et l'interprétation enlevée de Bradley Cooper. Isabelle Maillet dans Télé 7 jours, on plonge dans un thriller somptueux, sinueux et vénéneux à souhait, avec ses bonimenteurs interlopes, ses fausses magiciennes et sa blonde fatale incarnée par une Kate Blanchett spectaculaire. Étienne Sorin dans Le Figaro avec Kate Blanchett et Bradley Cooper, le réalisateur mexicain, s'essaie au film noir avec élégance et talent. Samuel Douer dans Télérama, avec ses couleurs profondes, ses décors luxueux et ses soudaines explosions de violence gore, Nightmare Alley ne joue pas la carte du polar rétro, mais du thriller contemporain. Stéphane Dreyfus dans La Croix, malgré sa sincère dimension personnelle, cette fable âpre sur le poids des déterminismes sociaux est alourdie par un dénouement inutilement long et grandiloquent qui aurait mérité un coup de baguette magique au montage. Jacques Mandelbaum dans Le Monde, film ambitieux, Nightmare Alley s'appréciera comme une belle horlogerie baroque à laquelle manque sans doute l'intime nécessité et l'intime palpitation d'un cœur vivant. Adrien Gombeau, Les Échos, l'auteur de La Forme de l'eau, revient avec un hommage au film noir, une histoire d'arnaque et de mentalisme portée par une distribution de stars, un spectacle splendide mais étouffant. Et l'Obs, Nicolas Chaleur, c'est ambitieux, léché, trop tant les enjeux ont du mal à maintenir l'attention et les aspérités à percer la surface de ce long film dont le style ripolliné flirte avec le pastiche. Voilà, donc ça s'appelle Nightmare Alley. C'est proposé au Méga CGR, c'est proposé au Pâté Quinconce avec une session en VO au Pâté Quinconce. Et ça dure 2h30. Voilà, Nightmare Alley. Eh bien donc, Stanton Carlyle, c'est un type dont on ne sait rien, mais dont on devine une personnalité et un passé trouble. Engagé dans une sorte de fête foraine par d'attraction dans l'Amérique des années 40, il séduit Molly, une jeune artiste de la troupe, et il réussit à capter la confiance d'un vieux mentaliste qui lui apprend ses techniques. Un an plus tard, parti du parc, Stanson et Molly montent une attraction de télépathie dans des cabarets de luxe à New York, et cette attraction va tourner à la grande escroquerie avec la complicité d'une vénéneuse et avide psychanalyste ou psychiatre, on ne sait pas trop. Esthétiquement, le film est superbe, mais c'est clair qu'il y a une grande qualité dans sa direction artistique, les décors, les costumes, la photographie est absolument magnifique, mais scénaristiquement, je suis quand même moins convaincu par ce film. Alors, un film qui multiplie les références aux films de monstres forains, aux films d'arnaque, aux films noirs, mais dont l'histoire s'étire quand même sur 2h30. La première partie qui se passe dans cette fameuse fête foraine est finalement la plus intéressante, et pourtant, c'est durant cette partie-là qu'il se passe finalement peut-être le moins de choses. Simplement, on campe les différents personnages, on restitue l'atmosphère, celle de ces spectacles mi-cirque ambulant, mi-fête foraine à monstres que l'on retrouvait dans Freaks, puisque la grande référence, l'une des grandes références du film, c'est le fameux film de Todd Browning, Freaks, la monstrueuse parade. La partie thriller avec sa blonde vénéneuse, comme il se doit bien entendu, celle des arnaques à la télépathie tient moins la route, même si moi j'ai trouvé la conclusion cyniquement ironique et une bonne conclusion. Il ne me paraît pas étonnant que le film ait été un échec au box-office américain, cet hommage au film noir, mais cet hommage au film noir, il y a quelque chose qui fait que, bon, je le répète, artistiquement, c'est parfait de bout en bout, mais il y a quelque chose qui fait que je ne suis pas à 100% derrière ce film, Nightmare Alley, qui n'est pas un film que je vous déconseille, non, mais ce n'est pas forcément un film absolument indispensable. Je pense, j'en attendais un petit peu mieux de Nightmare Alley, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Je l'ai vu en VO, je ne sais pas ce que ça donne en VF, si la VF est de bonne qualité, mais voilà. Nightmare Alley, Pâté Quinconce, Méga CGR. Toujours Pâté Quinconce et Méga CGR. Tendre et Saignant. Tendre et Saignant, c'est un film français de Christopher Thompson, acteur, réalisateur, scénariste, né en 69. Alors, Christopher Thompson, ben, il a une lourde hérédité, si on peut dire, puisqu'il est le petit-fils de Gérard Houry et le fils de Daniel Thompson. Et il avait réalisé en 2009 Bus Palladium avec Antoine Dupont, c'est un rugbyman. Et Marc-Antoine Grondin, donc je ne sais plus comment il s'appelle le prénom de Dupont, peu importe. Et puis les acteurs dans des films comme Tout là-haut, Fauteuil d'orchestre, La Bûche, et scénariste, co-scénariste souvent avec sa maman, Daniel Thompson. Voilà, Daniel Thompson, j'ai dû me tromper tout à l'heure dans le prénom. Donc Christopher Thompson, Tendre et Saignant, un film d'une durée d'une heure trente, avec Géraldine Pellas, qui s'accompagne, et Arnaud Ducré. Rédactrice en chef d'un magazine de mode, Charlie, c'est une femme, hein, hérite de la boucherie familiale. Alors qu'elle s'apprête à la vendre, elle rencontre Martial, l'artisan boucher de son père, bien décidé à se battre pour sauver le commerce. Séduite malgré elle par le charisme de Martial, Charlie pourrait être amenée à changer d'avis. Alors, Guy Métodicino dans le Télérama, face à Arnaud Ducré, solide dans l'exercice de la comédie, Géraldine Pellas, étincelle, en talons hauts ou en tablier de commerçante. Elle offre cette romance entre le Paris à la page et le traditionnel chapon farci, un petit parfum d'âge d'or hollywoodien. Oui, bon. Le Parisien, une comédie bien cuisinée, presque bio. Le Monde, Véronique Coapé, le film réserve peu de surprises, mais est aussi sympathique que ses personnages et le terroir qu'il vante. Julien Marcillon de Télé 7 jours, le cadre est original. Pour le reste, rien de neuf dans la bluette, même si Géraldine Pellas et Arnaud Ducré ont indéniablement le charme en partage. Voilà ce que dit la presse sur ce film tendre et saignant. C'est un film qui coche toutes les cases du schéma habituel de la comédie romantique. Ça commence par la rencontre coup de foudre, puis l'histoire d'amour idyllique, et bien entendu, arrive un moment les embrouilles, la rupture, et jusqu'au retrouvailles final. Là, toutes les cases sont cochées. Donc, aucune originalité de ce côté-là. En fait, ce qui change un petit peu, c'est le contexte, puisqu'il est question du métier de boucher. Mais oui, c'est pas un métier qu'on voit très fréquemment au cinéma, je suis bien d'accord. Et le film raconte aussi une histoire de transmission. Donc, cette histoire, c'est celle de Charlie. Donc, elle est fille de boucher, mais bien que très douée quand elle était jeune pour ce métier, elle n'a pas repris la boutique de son père. Elle est devenue une célèbre rédactrice d'un magazine féminin de mode. Elle rencontre Martial sans savoir qu'il est l'employé de son père et va avoir avec lui une aventure. Passer les premiers quiproquos, et parce qu'elle a été virée de son boulot, elle reprend, au décès de son père, avec Martial, la boucherie. Et tous deux vont en faire une boutique prospère, livrant en viande de qualité les grandes tables parisiennes et faisant de Martial un boucher star, un peu à la Hugo Desnoyers, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est le boucher que l'on voit dans les magazines, avec des couvertures de GQ ou des choses comme ça. Alors, on passe sur les nombreuses péripéties et les hauts et les bas de leur association qui font le reste du film. Alors, tel quel, rien ne différencie ce film d'un bon téléfilm. Hein, reste à comprendre pourquoi il a eu les honneurs du grand écran, mais ça constitue l'un des fréquents mystères de la production française, peut-être parce qu'il a été réalisé par Christopher Thompson, et donc peut-être que ça le rend plus bankable aux yeux des distributeurs, je ne sais pas. Enfin, c'est un film sans relief particulier qui fonctionne essentiellement sur la sympathie que dégagent les acteurs principaux, donc Géraldine Pellas et Arnaud Ducré, et sur l'évocation du métier d'artisan boucher dont le film fait la promotion avec zèle. Peut-être que le film va susciter des vocations, je ne sais pas. En tous les cas, le film repose sur les oppositions, télescopages entre métier de la mode, sophistiqué, superficiel, mais brassant beaucoup d'argent, et celui de l'artisanat, les pieds sur terre, dans le quotidien. Une femme d'un milieu traditionnellement masculin, puisque les bouchers, c'est quand même en général des hommes, hein, je ne veux pas faire de sexisme, mais c'est quand même souvent le cas. Et voilà, donc c'est un film bon, agréable, mais un film, comme on dit, du dimanche soir. Pas du tout de nouveauté par rapport à la comédie romantique, si ce n'est, je vous répète, le cadre, la boucherie. La boucherie, voilà. Alors on voit comment on part la viande, comment on la découpe, comment on va choisir les bêtes dans le Cantal, etc., etc. Bon, voilà, donc ça a ce côté un petit peu documentaire qui est un peu sympa. Pour le reste, c'est quand même très attendu, très convenu. Allez, petite pause musicale. Eh bien, justement, dans le film Tendre et Saignant, le boucher père, qui est joué par Jean-François Stévenin, ça doit être un de ses derniers rôles, puisqu'il est depuis décédé, et il aime beaucoup cette chanson de Serge Lama, d'Aventure en Aventure, qui est jouée sur sa tombe au moment de ses obsèques. D'Aventure en Aventure, Serge Lama, sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Ça n'a pas dû arriver souvent.
Bien sûr, j'ai d'autres certitudes, j'ai d'autres habitudes. Et d'autres que toi sont venus les lèvres tendres, les mains nues, bien sûr. Bien sûr, j'ai murmuré leur nom, j'ai caressé leur front et j'ai partagé leur frisson. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore, bien sûr, du soir au matin blême, depuis j'ai dit je t'aime. Et d'autres que toi sont venus marquer leurs dents sur ma peau nue, bien sûr. Bien sûr, pour trouver le repos, j'ai caressé leur peau. Elles m'ont même trouvé beau. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore, bien sûr, j'ai joué de mes armes, j'ai joué de leurs larmes. Entre le bonsoir et l'adieu, souvent pour rien, souvent par jeu, bien sûr. Bien sûr, j'ai redit à mi-voix tous les mots que pour toi j'ai dit pour la première fois. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore, mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure parce que je t'aime. Je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore.
D'aventure en aventure, Serge Lama, un titre que l'on entend dans le film Tendre et Saignant. L'amour, c'est mieux que la vie, c'est Claude Lelouch qui dit ça, et c'est le titre de son dernier film, duré 1h55, proposé par le Pathé Quinconce et le Méga CGR. Claude Lelouch, c'est son 50e film, alors évidemment on ne va pas faire la liste des 50 films. Sachez que son premier n'est pas, comme beaucoup le croient, un homme et une femme, mais un film s'appelait en 60 Le propre de l'homme, qui est totalement invisible depuis. D'ailleurs, alors sinon, Lelouch, c'est un homme et une femme, bien sûr, en 66, Palme d'Or à Cannes, Oscar du meilleur film à Hollywood. C'est aussi Vive pour vivre, Un homme qui me plaît, Le voyou, L'aventure c'est l'aventure, 73, La bonne année, qu'on a vu récemment, il y a une ou deux semaines, sur la 5. Et puis, c'est d'autres films comme, je ne sais pas, moi, Edith et Marcel, c'est par exemple Itinéraire d'un enfant gâté, c'est par exemple La belle histoire, Les Misérables, et puis, bon, plein d'autres. Les derniers, allez, on va citer les 5 derniers, parce qu'il y a peu de chances que vous les ayez vus, parce que depuis quand même pas mal de temps, Lelouch ne fait plus recette, au moins au box-office. En 2014, Salaud on t'aime, avec Johnny Hallyday et Sandrine Bonner. 2015, 1 plus 1, si ça avait à peu près marché, ça, avec Jean Dujardin et Elsa Zilberstein. 2017, Chacun sa vie, avec Johnny Hallyday et Éric Dupond-Moretti. 2018, La vertu des impondérables, ça c'était uniquement proposé sur Canal+. 2019, Les plus belles années d'une vie, avec Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, film très émouvant, mais pas exceptionnel non plus, pour qu'on se précipite pour aller le voir. Les trois A, l'amour, l'amitié et l'argent, sont les trois principales préoccupations de l'humanité. Pour en parler le plus simplement possible, Gérard, Harry et Philippe ont fait connaissance il y a 20 ans, à leur sortie de prison, et se sont tout de suite posé la vraie question, et si l'honnêteté était la meilleure des combines. Aujourd'hui, ils sont inséparables et scrupuleusement vertueux, mais Gérard apprend qu'il souffre d'un mal incurable. Le sachant condamné, Harry et Philippe veulent lui offrir sa dernière histoire d'amour, car Gérard a toujours répété que l'amour, c'était mieux que la vie. Alors, comme avec toujours avec Lelouch, une revue de presse très, 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 très partagée. Hein, ça, c'est le propre de Lelouch. Il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Le Figaro, Éric Neuf, histoire d'amitié solide entre trois hommes. Son dernier film touche par ses dialogues justes et montre des adieux optimistes. Enthousiasmant qualifie le film Éric Neuf. Jean-Luc Warsthausen dans Le Point. Rien que la vie qui passe, filmé avec passion et un brin de mélancolie. Corinne Renoud-Nativelle dans La Croix, des dialogues naturels impressionnants et des comédiens impeccables, au premier chef desquels Gérard Darmon et Sandrine Bonner font couler à flot une exaltante vitalité. On attend la suite, oui, parce que c'est le début d'une trilogie. Barbara Théâtre, de Journal du Dimanche, avec ce 50e opus, premier volet d'une trilogie consacrée à l'amour, l'amitié et l'argent. On retrouve ce que le cinéaste, à l'énergie bluffante, sait faire de mieux, diriger des acteurs et orchestrer une histoire romanesque qui raconte quelque chose de notre société. Pascal Vergerot dans Ouest France, un méli-mélo déconcertant, mais quelques beaux instants de cinéma vérité. Frédéric Foubert dans Première, l'argument est un peu daté, les scènes s'étirent parfois au-delà du raisonnable, le casting est franchement extravagant, mais comme dans Les plus belles années d'une vie, Lelouch explore joliment la tension entre sa volonté de se confronter à la mort et l'élan vital phénoménal qui continue de caractériser son cinéma. Marco Suzal, qui a eu du cinéma, justement, le problème est que depuis longtemps, la principale source des films de Lelouch est le cinéma de Lelouch. L'amour, c'est mieux que la vie fonctionne à plein régime dans ce mortifère recyclage des extraits de ses anciens films faisant office de flashback pour créer a posteriori une famille d'acteurs et de personnages. L'Obs, Xavier Le Herpeur, le scénario s'étire et se noie dans une mollesse et un premier degré prévisible. Premier volet tournant à vide d'une trilogie dont on est guère pressé de voir la suite. Voilà donc ce qu'on peut dire dans la presse sur le film « L'amour, c'est mieux que la vie ». Alors donc, Harry et Philippe, Harry Habitant et Philippe Lelouch, sachant que leur ami de 20 ans, rencontré en prison, souffre d'une maladie incurable, décide de lui offrir à son insu une dernière histoire d'amour en faisant appel à une professionnelle. Voilà, ça c'est le point de départ du film de Claude Lelouch, qui parle donc d'amour, d'amitié, de la vie, de la mort, de Dieu, du diable, et que sais-je encore, on retrouve ici tous les défauts et toutes les qualités de ce qui fait qu'on aime ou qu'on déteste les films de Claude Lelouch. Alors commençons par les défauts. Ben, dans les défauts, il y a un très long prologue que l'on qualifiera de mystique, faute de mieux. Ce prologue aurait été parfaitement inutile, mais comme ces personnages de ce prologue, les personnages de ce prologue reviennent tout au long du film, on ne peut en faire l'économie. Autre défaut, du moins pour certains, la philosophie lelouchienne, faite d'aphorismes à la poudre de perlimpinpin, hein. On adhère ou pas, moi c'est plutôt pas, mais encore que tout ce qu'il dit n'est pas forcément faux, par exemple sur la façon d'envisager la mort et de se mettre en règle avec les siens en leur disant ce qu'on ne leur a jamais dit, ça on peut l'admettre, mais il y a beaucoup d'aphorismes un peu cucu. Passons aux qualités, alors ces qualités pour moi elles l'emportent hein, quand même. Les qualités, bien, c'est la direction d'acteur, une direction d'acteur si particulière que à l'instar, par exemple, d'un film de Bertrand Blier, eh bien, on sait immédiatement qu'on est dans un film de Claude Lelouch. C'est une réaction d'acteur qui laisse une grande liberté aux comédiens, avec ses dialogues improvisés, Pour les comédiens, ça doit être vraiment un régal de tourner avec Lelouch. Et par voie de conséquence, eh bien, ils y livrent souvent, même toujours, des performances remarquables. Ici, en tête, Gérard Darmon et Sandrine Bonner, qui sont époustouflants de naturel. Autre qualité, eh bien, la fantaisie de l'histoire, la façon de la raconter, de nouer les fils entre les personnages. Autre très bonne idée, qui n'a pas plu visiblement aux critiques de l'Obs, à vous avis le Harper, c'est d'utiliser des extraits de ces anciens films pour établir des filiations avec certains personnages, ce qui nous permet entre autres de revoir Lino Ventura dans L'Aventure, c'est l'aventure, ou La Bonne Année, par exemple. Voilà, donc, globalement, on va dire qu'on prend plaisir à la vision de ce film sur l'amitié, l'amour, la vie. Alors, j'attends avec quand même impatience, moi, pas comme Xavier Harper, les deux segments suivants. Il y en a un qui devrait être tourné, d'après ce que nous a dit Lelouch, en juin et l'autre en décembre. Ils sont écrits, mais ils peuvent être modifiés en fonction de l'actualité. On pense, bien entendu, à l'élection présidentielle ou à l'évolution du Covid, des choses comme ça. Reconnaissons quand même que ce cinéma est peut-être quand même un petit peu dépassé. Il a peu de chances de séduire le public, disons, en dessous de 40 ans, hein, 40-50 ans. Je pense que là, le public ne suit plus depuis longtemps Lelouch. Bon, incontestablement, l'amour du cinéma est toujours là chez Lelouch. Mais, je répète, ce n'est pas ce film qui va vous faire aimer Lelouch. Si vous le détestez, vous n'irez pas de toute façon le voir. Et de toute façon, si vous y allez, ça ne fera que conforter votre opinion sur Lelouch. Si vous l'aimez, eh bien, vous aurez toujours une certaine tendresse pour ce cinéaste qui a quand même plus de 80 ans et qui me paraît quand même... Moi, on l'a vu, il est venu présenter le film au Pâté Quinconce, qui est quand même encore bien fringant pour l'âge qu'il a. Voilà. Donc, l'amour, c'est mieux que la vie. Pâté Quinconce et méga CGR. Cinéaste Michael Cimino, Un mirage américain. Alors, c'est un documentaire, duré 2h10 pour ce film de Michael Cimino, avec une séance par jour. En avril 2010, Jean-Baptiste Torré, qui est le réalisateur du film, prend la route avec Michael Cimino de Los Angeles au Colorado. Si vous voulez comprendre mes films, lui avait alors dit le réalisateur de Voyage au bout de l'enfer, vous devez voir les paysages où ils ont été tournés. Ce road movie oral et enregistré deviendra d'abord un profil publié dans les cahiers du cinéma, puis un livre, Michael Cimino, Les voies perdues de l'Amérique, chez Flammarion. 10 ans plus tard, Cimino n'est plus là, mais son fantôme continue de hanter certains replis de l'espace américain. Au cours de l'hiver 2020, Michael Cimino, Un mirage américain, repart sur les traces de Michael Cimino. Voilà donc ce qu'en dit la presse. Jean-Claude Raspienjas, dans La Croix, parle d'un hommage somptueux de la part de Jean-Baptiste Torré à l'égard de Michael Cimino. François Forestier dans l'Obs, Road Trip désenchanté, ce documentaire est un beau poème dédié à un fantôme. Jérémy Couston, Télérama, comme surgit des ténèbres, la voix éraillée de Cimino, enregistrée lors d'un précédent voyage, achève de donner à l'ensemble la force d'une élégie. Les Inrecuptibles, Thierry Jousse, Michael Cimino, Un mirage américain, est à la fois passionnant et funèbre, habité par les fantômes d'un idéal fordien. Oui, fordien, c'est John Ford, hein, c'est pas le constructeur automobile dont il est question ici. Le Monde, Muriel Joudet, de ce nouveau voyage naît ce road movie qui cherche à chaque séquence à nous prouver qu'il est plus qu'un documentaire sur l'œuvre d'un auteur, une rumination crépusculaire, mais n'assure pas le minimum en matière de pédagogie et de générosité. Thomas Borès en première, après 45 minutes émouvantes où se dessine la désolation de tout un pays, le film prend la tangente vers l'ouest et ressuscite enfin la voix de Cimino. Notre film démarre, qui fait mine d'embrasser une œuvre pour la réhabiliter, mais s'arrête en route pour revenir invariablement à son point de départ. Frustrant, conclut Thomas Borès dans Première. Alors, Jean-Baptiste Torré, donc, c'est un réalisateur et scénariste français. Il a jusqu'à maintenant réalisé des documentaires en 2017, We Blew It, et en 2018, Dario Argento, Soupir dans un corridor lointain. À signaler, pour être tout à fait complet, parce que je n'ai pas vu le film, à signaler que les cinéastes vous proposent tous les films de Cimino ce mois-ci. Et donc, on peut voir, par exemple, L'année du dragon, cette semaine. Mais on a pu voir Voyage au bout de l'enfer, il me semble, la semaine dernière. Et puis, les autres seront proposés certainement dans les semaines qui viennent, comme La Porte du Paradis, le film qui a, en quelque sorte, ruiné la carrière de Cimino. Voilà. La place d'une autre. Eh bien, La place d'une autre, c'est le film dont on va parler tout de suite. La place d'une autre, c'est un film français d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Aurélia Georges. Aurélia Georges, eh bien, elle a à son actif un court-métrage, et puis en 2008, L'homme qui marche, avec Philippe Rebaud, et 2015, La fille et le fleuve. Voilà. Ce film dure 1h52, il est proposé par les cinéastes, et il a droit à une à deux séances par jour. Nelly a échappé à une existence misérable en devenant infirmière auxiliaire sur le front en 1914. Un jour, elle prend l'identité de Rose, une jeune femme qu'elle a vue mourir sous ses yeux et promise à un meilleur avenir. Nelly se présente à sa place chez une riche veuve, Éléonore, dont elle devient la lectrice. Le mensonge fonctionne au-delà de ses espérances. Voilà pour le synopsis. La presse, donc. Fernando Ganzo, dans Cahiers du cinéma, n'aurait tort de reprocher au film son grand classicisme, de la mise en scène à la musique, en passant par la linéarité de son récit, car c'est cette clarté et cette linéarité qui mène le film vers une forme d'illumination où la conciliation impossible peut aussi devenir source d'une émotion pure. Thierry Chasse dans West France, le duo Lina Koudry-Sabine Azéma fait des merveilles. Olivier Delcroix dans Le Figaro, malgré un classicisme un peu trop sage, le film d'Aurélia Georges tire son épingle du jeu grâce à la complicité perceptible qui unit les deux actrices principales. Sandra Onada dans Libération, on croit bâiller et puis la sécheresse de la mise en place, le tact avec lequel le drame psychologique s'immisce dans le sentimentalisme du mélo, l'indécision d'un basculement dans le thriller exprime finalement l'élégance plutôt adroite d'un film qui ne nous indiffère pas complètement. François Forestier dans L'Obs, le thème de l'identité volée est prétexte à un mélo sympathique mais sage, si sage. Et Olivier de Bruyne dans Les Échos, Aurélia Georges dirige Lina Koudry et Sabine Azéma dans un film ambitieux sur l'usurpation de l'identité, malgré ses maladresses, une fiction troublante. Thierry Chasse en première, le classicisme assumé de la mise en scène paraît d'abord étouffer le romanesque d'un récit riche en tensions et rebondissements, mais ce parti pris finit par créer le parfait écrin pour densifier les échanges riches en non-dits. Je reprends ma phrase parce que je patouille là, hein, mais ce parti pris finit par créer le parfait écrin pour densifier les échanges riches en non-dits entre Nelly et sa patronne, cette relation quasi filiale qu'aucune des deux n'avait anticipée. La Croix, Corinne Renoux-Nativelle, parle d'une réalisation au classicisme appuyé. Oui, alors c'est vrai que bon, ce film est extrêmement classique. Hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors Nelly, donc, c'est Lina Koudry. C'est une jeune fille du peuple qui a connu jusqu'ici une vie difficile, allant jusqu'à même se prostituer. Et puis, eh bien, en quelque sorte, elle profite de l'opportunité de la guerre de 14-18, de la guerre de 14, parce que ce n'est pas qu'elle va être de 14-18 au moment où elle éclate, de la guerre de 14, pour s'engager comme auxiliaire infirmière, je ne sais pas comment on doit dire, sur le front. Et là, elle rencontre Rose. Rose, c'est une jeune femme d'origine suisse qui se rend chez une riche parente pour y devenir sa lectrice. Et puis, la croyant morte à la suite d'un bombardement allemand, Nelly usurpe son identité et s'introduit chez cette dame, chez Madame Éléonore, dont elle devient donc la lectrice. Alors cette dernière, cette dame, Madame Éléonore, s'attache bien vite à elle jusqu'au jour où ressurgit Rose. Et là, on ne dit pas plus. C'est un film de facture ultra classique, là je reprends tout ce qui a été dit par les critiques, là je suis absolument d'accord, sur le thème de l'imposture, mais c'est aussi une étude de mœurs sur une autre époque, aujourd'hui révolue avec ses rapports de classe, ses rapports sociaux de classe, avec l'importance accordée au paraître, au qu'en dira-t-on, voilà. C'est une histoire de possible émancipation, de destin contrarié, une œuvre sobre où l'émotion affleure d'ailleurs lors de l'épilogue. Voilà, donc les trois actrices, je dis les trois actrices parce qu'on a cité Lina Koudry, Sabine Azéma, mais il y a également Maude Wheeler, on doit dire Wheeler même parce qu'elle est française, pas Wheeler. Eh bien, ces trois actrices, au jeu d'une grande maîtrise, sont parfaites. C'est un film romanesque que l'on peut voir comme même un thriller d'époque, mais dont il ne faut pas quand même attendre Monts et Merveilles, hein, quand même, c'est un film de qualité qui plaira à ceux qui aiment les histoires classiques, les histoires romanesques. Un film tout à fait plaisant à voir et d'une durée d'1h53, proposé par les cinéastes. Allez, je vous l'avais annoncé au départ, le voici maintenant, le titre qu'on entend sur le générique de fin du film Nightmare Alley, s'appelle Stardust, et c'est Hoagy Carmichael qui vous propose ce titre sur Radio El Paso en 7.3 FM Le Mans. Hoagy Carmichael ou Hoagy Carmichael.
Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie. and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration. Oh, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grew. Though I dream in vain, in my heart it will remain my stardust melody, the memory of love's refrain. Stardust melody, the memory of love's refrain.
Stardust, donc, titre que l'on entend sur le générique de fin de Nightmare Alley. On a dû l'entendre aussi, ce titre-là, dans des films de Woody Allen, mais on est dans les années 40, c'est du jazz, donc... C'est assez logique qu'on entende des titres de jazz. On doit entendre aussi dans Stardust Memory le fameux Chattanooga Choo-Choo, par exemple. Voilà. The Chef, c'est un film que l'on peut voir exclusivement au cinéaste, avec une ou deux séances par jour. C'est un film de Philippe Barantini, c'est un réalisateur, scénariste britannique, et c'est son premier long-métrage. 1h34, Magic Friday, le vendredi avant Noël, la soirée la plus fréquentée de l'année. Dans un restaurant gastronomique de Londres, côté cuisine, à quelques minutes du coup de feu, tout le personnel est en ébullition. Mais les problèmes s'accumulent autour du chef étoilé Andy Jones et de sa brigade. S'ajoute à cela la pression constante d'une clientèle toujours plus exigeante qui menace de mener le restaurant à sa perte. Alors le titre original, c'est surprenant, c'est Boiling Point, et on traduit ça par The Chef. Alors voilà, on traduit un titre anglais par un autre titre anglais, alors qu'on aurait très bien pu dire le point d'ébullition, ça fonctionnait aussi bien, si ce n'est mieux, que The Chef. Mais enfin, passons, ça n'est pas la première fois qu'on a ce genre d'étrangeté dans les titres de films. Allez, Gilles Kerdreux, voilà une plongée dans West France, voilà une plongée totale dans un grand restaurant, de la cuisine à la salle, un soir de surchauffe avec le grand acteur Stephen Graham. Caroline Vier dans 20 minutes, la mise en scène virtuose de The Chef fait partager l'expérience des protagonistes avec une telle intensité qu'on demeure essoufflé, comme si on avait participé soi-même au service. Françoise Delbecq dans Elle parle d'un tour de force tout en énergie. Michael Mélinard dans L'Humanité pour son premier long-métrage, le Britannique Philippe Barantini réussit un coup de maître en évoquant un milieu dont il connaît les méandres. Stéphane Durand soufflant dans Le Figaro, porté par une tension dramatique de chaque instant et une interprétation brillantissime, The Chef est bien plus qu'un film sur les petits malheurs d'un restaurant, une réflexion sur un monde qui perd la tête, où l'on ne sait plus se parler, où s'impose la violence du désespoir jusqu'à l'irrémédiable. Charlotte Langrand, dans Le Journal du Dimanche, déclare que le film est vif, rythmé, bien joué, un beau menu. François Forestier dans L'Obs, avantage, dynamisme, spontanéité, fluidité, désavantage, dramaturgie parfois inégale et un côté « je vous épate ». Deux beaux numéros d'acteurs avec Stephen Graham et Vinette Robinson, mais un spectacle un peu vain. Marie Soulian dans Télérama, des fourneaux à la salle, le ballet est bien mené, fluide et servi par les acteurs aux petits oignons, à commencer par Stephen Graham. Dommage que Philippe Barantini ait surchargé son scénario de drame jusqu'à risquer l'indigestion. Voilà, donc le film The Chef est proposé par les cinéastes avec une ou deux séances par jour. Alors, c'est en temps réel, sur 1h30, Et si beaucoup de critiques parlent de la virtuosité de la mise en scène, c'est parce que c'est filmé en un unique plan-séquence. Voilà. Comme par exemple 1917. Mais dans 1917, c'était un faux unique plan-séquence. Tandis que là, il semblerait que ce soit un vrai. Le film décrit donc le service du soir, d'un restaurant londonien quelques jours avant Noël. Le film est plus particulièrement centré sur le chef cuisinier et patron associé de ce restaurant, qui s'appelle Andy Jones. On y voit comment fonctionne une brigade et toutes les tensions qui peuvent se produire entre ses membres, mais aussi les clients chieurs ou chiants, les services sanitaires tatillons, la volonté de plaire aux clients, aux influenceurs, aux critiques gastronomiques qui tous peuvent ruiner la réputation du restaurant pour un rien. Et voilà, donc c'est un film où on a donc tout ça qui est évoqué, mais on a aussi les interférences entre vie professionnelle et vie privée que vit ce chef et qui ont une influence inévitable sur la façon d'exercer son métier. On découvre ainsi petit à petit les nombreux problèmes auxquels il doit faire face. Alors je dis nombreux et l'un des critiques disait peut-être trop. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu trop de problèmes. Mais enfin bon, voilà, il fallait bien qu'il y ait des problèmes, sinon le film perdrait en intensité dramatique. Donc c'est un film dont la mise en scène, donc je répète, un plan unique, filmé caméra à l'épaule, est une véritable prouesse technique. Et cette caméra à l'épaule passe d'un membre du personnel à l'autre. Elle va, elle vient entre la salle, la cuisine, l'arrière-salle et même un petit peu l'extérieur. Et donc cette façon de filmer fait ressentir l'ébullition, le fameux boiling point du service, avec des acteurs tout à fait crédibles dans les différents rôles, en tête desquels donc Stephen Graham, en chef, qui petit à petit perd pied dans son impossibilité à tout gérer en même temps, confronté à sans doute trop de problèmes quand même. Voilà, une façon bien particulière de renouveler le film social, parce que c'est un film social, un exercice de style virtuose, un film intéressant, ma foi, et que je recommande, ma foi, assez chaudement. The Chef, c'est Les Cinéastes qui vous le proposent. Les Cinéastes vous proposent aussi Le Lynx. Le Lynx, c'est un documentaire d'un réalisateur français, Laurent Gélin, ou Gesselin. C'est son premier long-métrage, ça dure 1h24, c'est proposé aux cinéastes. Attention, là, il n'y a pas de séance tous les jours. Il n'y a des séances que certains jours. Donc faites attention, il y a séance maintenant, samedi et dimanche. On peut considérer que c'est peut-être un film qui intéresse plus particulièrement un jeune public, mais bon, je ne sais pas, je n'ai pas vu le film. On est au cœur du massif jurassien. Un appel étrange résonne à la fin de l'hiver. La superbe silhouette d'un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous découvrons un univers qui nous est proche et pourtant méconnu. Une histoire authentique dont chamois, aigle, renard et hermine sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin d'Europe qui reste menacé. Un film pour découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos forêts, l'équilibre qu'il a rétabli dans un milieu fragile, mais aussi les difficultés qu'il rencontre dans un paysage largement occupé par les humains. Thierry Chaise en Ouest-France déclare que le film propose des images exceptionnelles et authentiques. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche, un récit qui provoque l'émerveillement et appelle avec sincérité et émotion à la conservation de l'espèce. Coralie Chaub dans Libération, c'est une grande goulée d'air pur, un ravissement pour les mirettes, des sons rares et étonnants qui titillent les esgourdes en ces temps mornes et étouffants. Foncez en salle pour vous faire chouchouter les sens et l'âme avec Lynx, un subtil documentaire réalisé par Laurent Gesselin. François Ekjazer, je ne suis pas sûr de ne pas écorcher son nom dans Télérama. S'il ne brille pas par son originalité, le résultat se démarque du tout venant en accordant une place inhabituelle au son de la nature, se gardant de les noyer sous une musique surabondante. Xavier Lerper dans L'Obs, lorsque l'animal daigne enfin pointer le museau, la voix off invente une vague narration pour relier entre elles les rares images du lynx, mais sans nous captiver. Reste de très belles images, c'est le service minimum. Thierry Chaise, on l'avait entendu dire beaucoup de bien dans Ouest-France, il est plus critique dans Première, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Dommage, alors qu'en contradiction avec ce parti pris de réalisation, Gesselin choisit de scénariser son récit, de faire appel à des voix off explicatives. Bref, de reconstituer toute son épopée de manière trop maladroite et brinquebalante pour ne pas en perdre une grande partie de la saveur. Voilà, ça s'appelle Lynx. C'est un documentaire duré 1h24 proposé par les cinéastes. Attention, il n'y a plus qu'une séance samedi et une dimanche. Hors du monde. Hors du monde, c'est un film de Marc Fouchard. Et ce film Hors du monde est proposé au Colisée. Mais oui, au Colisée, c'est un film interdit au moins de 12 ans avec avertissement. Duré 1h33. Léo est chauffeur et vit seul dans sa voiture. Il ne s'ouvre au monde qu'à travers sa musique. Un jour, Léo conduit Amélie, une cliente pas comme les autres, danseuse et sourde, et pourtant réceptive, aux compositions qu'il passe dans sa berline. Léo semble séduit par cette femme, comme lui, hors du monde. Amélie aussi est attirée par le sombre Léo, mais ce qu'elle ignore, c'est que Léo est un terrible prédateur. Voilà. Caroline Vie, dans 20 minutes, cette expérience immersive prend tout naturellement sa place dans les films d'horreur français, qui allient cinéma de genre et films d'auteur. Hors du monde constitue une curiosité, parfois un peu maladroite, mais toujours fascinante, à découvrir, déclare Caroline Vie. Le Parisien, le long métrage propose par ailleurs de très belles images et quelques scènes fulgurantes, comme celle de l'agression d'une victime à son domicile au dénouement inattendu. Mais le sujet délicat interdit toute forme d'empathie ou d'immersion et au final, le film reste glaçant dans la forme comme le fond. L'écran fantastique Yann Lebec, le film repose sur les épaules de l'acteur Kevin Michel, dont la prestation est irréprochable, mais il manque à l'ensemble un soupçon d'originalité ou de surprise pour faire de ce thriller horrifique une expérience réellement marquante. Thomas Borès en première, la caméra accentue la pose en accumulant des séquences descriptives, source d'aucun malaise. Dès lors, ce voyage au tréfonds d'une âme en peine et malade ressemble à une fuite en avant où tout ce qui peut advenir, prévisible ou non, n'est le résultat d'aucune progression tangible. Voilà, ça s'appelle Hors du monde, c'est proposé par le Colisée, ça dure 1h33 et je ne suis pas allé le voir. Voilà, alors avant de vous annoncer les films à l'affiche pour la semaine prochaine, des avant-premières, il y en a pas mal d'ailleurs, un petit titre Charles Trenet, mais oui, pourquoi pas. Vous qui passez sans me voir, ce titre, on l'entend dans le film Tendre et saignant, Charles Trenet sur Radio Alpa, 107.3 seulement. Ce n'est pas la première fois, je l'ai déjà passé à plusieurs reprises. Vous qui passez sans me voir.
Vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine. Vous dont je guette un regard, pour quelle raison ce soir passez-vous sans me voir? Un mot, je vais le dire, je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème, c'est jeune et c'est triste aussi. Vous qui passez sans me voir, même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir. Les souvenirs sont là pour m'étouffer de larmes, de fleurs, de baisers. Ah oui, je revois les beaux matins d'avril, nous vivions sous les toits, tout en haut de la ville. Qui passez sans me voir, vais le dire, je vous aime, c'est ridicule, c'est bohème, c'est jeune et c'est triste aussi. Vous qui passez sans me voir, sans me donner d'espoir, bonsoir.
Vous qui passez sans me voir, version de Charles Trenet. Il y a aussi une version Jean Sablon, mais c'est Charles Trenet qui a composé cette chanson. Et cette chanson, on l'entend dans le film Tendre et saignant. Alors, les films en avant-première et qu'on pourra voir la semaine prochaine. En avant-première, si vous nous écoutez en direct, eh bien ce soir, vendredi à 20h, au Pathé, Omega et au Colisée, My Hero Academia World Heroes Mission. C'est un dessin animé, un film d'animation japonais. Il semblerait que ce soit quelque chose d'assez célèbre. On peut le voir en VO même au Pathé et je crois même au Colisée. 20h donc ce soir, vendredi 21, My Hero Academia World Heroes Mission. Mais sinon, vous pouvez aller voir ce soir en avant-première au Cinéaste à 20h30, Les Jeunes Amants dans le cadre des avant-premières du Festival Télérama. Toujours à propos de ce Festival Télérama, eh bien mardi à 19h au Cinéaste, on pourra voir Un Monde et à 20h30, Un Autre Monde. Je ne sais pas si c'est fait exprès que ce soit Un Monde et Un Autre Monde, parce que c'est deux films qui n'ont absolument rien à voir. Mais bon, c'est comme ça. 19h, mardi soir, Un Monde. Et 20h30, Un Autre Monde. Sinon, une équipe de films qui vient au Pathé, non pas au Pathé, qui vient au Méga CGR, c'est l'équipe de Qu'est-ce qu'on a tous encore fait au bon Dieu ? Ou Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, pardon. C'est à 14h15, dimanche, et il est prudent de réserver parce que ça risque d'être plein, même s'il n'y aura pas Christian Clavier ou Chantal Lobby là-dedans. Donc dimanche 23, Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ? 14h15 Omega, il est prudent de réserver. Les films à l'affiche la semaine prochaine. Alors, un film qu'on va qualifier de blockbuster, Morbius, de Daniel Espinosa avec Jared Leto, Michael Keaton, je ne sais pas ce que c'est. Donc Un Monde, donc il y avait en première le mardi, et là vous aurez la sortie nationale. Un Monde de Laura Vandel, presque de Bernard Campan et Alexandre Jolien. Une jeune fille qui va bien, de Sandrine Kiberlin, ça sera proposé par les cinéastes. Adieu Paris, d'Edouard Baird. Les Promesses, de Thomas Kruithof, avec Isabelle Huppert et la Kateb, ça a l'air pas mal ça. Et puis toujours les cinéastes municipales. Et Nos âmes d'enfants, un film américain avec Joaquin Phoenix. Voilà, ça c'est pour les films à l'affiche la semaine prochaine dans les cinémas Manceau. Cette semaine, qu'est-ce que je peux bien vous recommander ? Oh, absolument à voir, pas vraiment. Mais on peut très bien aller voir Nightmare Alley, on peut très bien aller voir The Chef, on peut très bien aller voir, si on est fan de Lelouch, uniquement, l'amour c'est mieux que la vie. Voilà ce qu'on peut dire sur les films. On peut aussi aller voir La Place du Nôtre, oui, on peut tous les voir un peu, mais aucun ne vraiment, pour moi, ne se détache du lot. Voilà ce qu'on peut dire. On se retrouve sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Clap sur Radio Alpa, donc 107.3. Simplement.